cette table ronde. J'espère que vous allez nous aider à y participer parce que c'est une table ronde aussi qui vraiment, là pour le coup, va vous demander un peu votre aide et votre soutien et les questions que vous allez pouvoir poser à nos trois intervenants justement sur la question du livre numérique et de l'édition numérique. Moi je voulais quand même, avec Stéphane, peut-être parler d'abord du marché que ça représente aujourd'hui le numérique. Pour un éditeur comme Bragelonne aujourd'hui, c'est combien de titres disponibles en numérique et si on peut le dire, quelle part de marché ça représente?
J'ai vraiment besoin d'un micro?
Oui, il y a des gens qui enregistrent.
Bonjour. Le marché, en très gros, le marché du livre numérique en France, ça doit être, à vue de nez, 1 à 3% du marché, à tout casser, 2, tu dis, Jérôme?
2 sur les derniers chiffres 2011, de je ne sais plus qui. Mais quelqu'un de sérieux.
Une autorité, ouais. Voilà. Donc c'est, comme j'ai coutume de dire, c'est beaucoup et c'est bien peu, hein, comme dit la chanson, c'est-à-dire que, évidemment, c'est tout petit, hein, vous en rendez bien compte. En même temps, étant donné que ça a commencé très récemment, en gros un an et demi, 2 ans, vraiment pour être large, et que c'est évidemment encore balbutiant et qu'il y a énormément d'obstacles et de problèmes qui s'oppose au développement du marché du livre numérique en France, qu'on pourra peut-être évoquer, du coût et du retard énorme que nous avons par rapport à ce qui s'est développé, en particulier aux États-Unis, depuis facilement 5, 6 ou 7 ans maintenant. En un sens, c'est quand même déjà pas mal. On aurait pu s'attendre à ce que ça représente moins. Donc je pense que c'est tout petit, mais que ça s'est déjà développé d'une façon assez rapide. Ce sera intéressant de voir. Et je pense surtout que c'est vraiment ascensionnel. C'est ça qui me paraît vraiment important. C'est que...
Oui, c'est vraiment un pari sur l'avenir.
Oui, mais c'est un pari sur... Moi, oui, je t'aurais dit oui, un pari sur l'avenir il y a un an et demi. Aujourd'hui, c'est plus qu'un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que concrètement, moi, je paye 2 salaires à plein temps avec les ventes de livres numériques. Donc en fait, là, c'est pas l'avenir, c'est leur salaire, c'est aujourd'hui. Hein. Et donc c'est déjà très concret, dans la visibilité, dans les sites qui le mettent en avant, dans les publicités ou l'attention que ça peut, la façon dont ça peut attirer l'attention du public, dans la diversité et la quantité des ouvrages publiés, dans la diversité également et l'initiative et la créativité des acteurs du genre. Je trouve particulièrement intéressant, évidemment, l'activité des éditeurs dans le domaine de l'imaginaire, autant puisque nous sommes là, autant parler d'eux. Et comme on le verra, évidemment, avec Jérôme et Philippe et avec moi, c'est-à-dire des éditeurs de taille et avec une façon de travailler, de fonctionner et d'être diffusé, etc., très différente. Et ça, je trouve ça particulièrement spectaculaire, par exemple.
Juste avant de donner la parole aux autres intervenants, c'est tous les titres Bragelonne qui aujourd'hui sont distribués en numérique ou il y a des choix qui sont faits?
Alors, il y a forcément des choix qui sont faits. Aujourd'hui, il y a 450 titres du Bragelonne, Milady, Castelmore, enfin l'ensemble des marques du petit groupe que nous sommes, sur un peu plus de 1000 titres disponibles en papier. Donc c'est à peu près la moitié. Oui, des choix sont faits. Alors déjà, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc forcément, on fait au fur et à mesure. Et dans ce qu'on fait au fur et à mesure, il y a une sélection qui s'opère. Premièrement, qu'est-ce qu'on a le droit de numériser? C'est-à-dire que tous les ayants droit, les auteurs, les agents, les éditeurs, les gens auprès de qui on acquiert les droits d'édition des ouvrages, tous ne nous autorisent pas à publier leurs ouvrages en numérique, ou alors à des conditions que nous refusons. Et deuxièmement, il y a une sélection qui est liée aux priorités de l'actualité, à la pertinence de certains ouvrages, et de se dire, on va plutôt faire cette série plutôt que celle-là, en premier, puis on verra pour l'autre. Donc, sachant qu'on a commencé il y a un an et demi, et qu'on fait à peu près 5 titres par semaine, je crois, et que ça va en s'accélérant, petit à petit, je pense qu'on va arriver à couvrir en ce qui se fait à l'heure.
Même question, état des lieux un petit peu justement, présentation de la situation. Alors, et des choix stratégiques peut-être aussi.
Oui, des choix très stratégiques pour nous. Plusieurs choses, c'est marrant parce qu'il y a un an on avait une table ronde sur le numérique ici et il y a un an on n'en faisait pas encore et j'avais dit à Jean-Claude Dugain que nous en ferons quand, lorsque nous aurons les moyens d'être diffusés facilement et massivement sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas de faire du numérique juste pour chez nous. Je voulais qu'on puisse être présent facilement sur Amazon, sur la Fnac, etc. Il se trouve que la possibilité s'est présentée, donc nous avons décidé de nous lancer sur le numérique. Alors, avec cette particularité, c'est que nous sommes de tout petits éditeurs et nous avons un petit catalogue. On a un catalogue aujourd'hui de 45 titres. Donc, ça ne faisait pas beaucoup, mais avec cette particularité aussi, grâce au numérique, on a très vite compris qu'on allait pouvoir essayer plein de choses et mettre en place plein de choses. Donc, notre priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir numériser progressivement notre fonds. Alors, effectivement, en fonction, ça implique des discussions avec les auteurs, les ayants droit, les agents. Mais moins de discussions, parce qu'on n'a que 45 titres. Du coup, les choses se font. Mais ce qui est aussi intéressant dans le numérique en tant qu'éditeur, c'est qu'on du coup, on a d'autres discussions avec les auteurs. On a un autre niveau de discussion, parce qu'on a une autre technologie qui est mise en place, et forcément, ça interroge. Et puis, on a décidé, là aussi, parce qu'on a discuté avec des auteurs, de mettre des choses très vite inédites en numérique. Des choses qu'on ne pourrait pas faire en papier. Et ce qui nous plaît, nous, c'est aussi cette liberté-là. Très vite, là, on va mettre en place un diptyque de Roland Reiner qu'on ne pourrait pas faire en papier parce qu'il ferait 60 pages. Donc, en termes de format, de fabrication, de distribution, ce ne serait pas possible aujourd'hui. Mais par contre, ça l'est en numérique. Donc, on va faire aussi un triptyque de Timothy Ray et des choses comme ça. Et puis, comme nous, on est spécialisé dans les nouvelles, le dernier axe qu'on souhaitait mettre en place, c'est proposer en numérique une anthologie, c'est toujours un peu compliqué parce que vous multipliez les acteurs, les contrats. Donc ça pose plein de questions. Par contre, on peut tout à fait faire des séries de nouvelles. Donc là, on a mis en ligne 5 nouvelles érotiques tirées de notre anthologie érotique qu'on a fait à nous dans notre catalogue, mais aussi d'autres anthologies. Donc voilà, donc plusieurs axes, à la fois le fond des nouveautés, à la fois des groupes de nouvelles sur des thématiques, et à la fois des choses inédites ou des choses venues parfois d'autres éditeurs. Je regarde Philippe. Voilà.
Mais je vais venir à Philippe, mais d'abord, est-ce que ça change par rapport au contact avec le lecteur et même plus, je veux dire, le lectorat? Parce que on était avec Bragelonne tout à l'heure, je ne m'inquiète pas pour eux au niveau distribution, au niveau présentation, etc., dans les librairies, dans les centres culturels, etc. Mais quand on est un micro-éditeur, qu'on a 45 titres en catalogue, est-ce que justement le livre numérique, ce n'est pas aussi une chance finalement de toucher un plus large public, ou en tout cas d'attirer un peu plus facilement sa curiosité?
Ce qui est sûr, c'est que, alors c'est plus peut-être une question pour Stéphane, parce qu'ils ont des volumes de vente qui sont bien plus importants que nous, notamment en numérique, mais à notre petit niveau, ce qu'on se rend compte, c'est difficile de dire pour Amazon, mais ce qu'on se rend compte en direct sur ce qu'on vend via notre site, c'est que ce ne sont pas forcément nos habitués de papier qui achètent en numérique. C'est-à-dire qu'on...
C'était le sens de ma question.
Ouais, on a d'autres gens qui viennent et qui sont intéressés par le numérique. On est bien d'accord, aujourd'hui ça représente 2% du marché. Néanmoins, c'est 2% qu'on a tout à fait le droit d'investir et discuter. Et je ne suis pas sûr qu'il y a plein de débats en ce moment sur le numérique, sur est-ce que ça va tuer le papier, pas le papier, etc. A priori, nous, on ne voit pas forcément les mêmes lecteurs. Donc, pourquoi pas?
C'est une prise de risque différente aussi dans la manière de consommer. Peut-être que ça, on demandera aussi aux personnes qui sont présentes éventuellement, mais finalement, le livre papier est cher, le livre numérique l'est un petit peu moins. Est-ce qu'on peut plus prendre un risque finalement d'acheter un livre numérique en se disant que bah, si on ne l'aime pas, c'est moins grave?
Alors je te répondrais oui, si c'était exactement les mêmes acheteurs en papier qui venaient acheter du livre numérique, c'est-à-dire qu'on a des habitués, hein, des gens qui nous achètent tous les livres. Si d'un seul coup on avait des gens qui basculaient en numérique, simplement pour une question de prix, je te dirais oui. A priori, ça n'a pas l'air d'être complètement... Je ne dis pas qu'il y en a, hein,
oui,
il y en a
oui.
Pas, mais voilà. Et si on fait un effort sur le prix et que notamment le prix est quelque chose d'assez important, d'essayer d'avoir des prix bas par rapport au numérique, c'est, en tout cas, ce n'est pas l'argument que les gens nous donnent quand on les voit. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui passait sur le stand. Il m'a dit, ah, le bouquin sur Mathieu Gaboury, super, etc. Et si vous avez fait en numérique, voilà, c'est une des premières fois. Mais il n'a pas du tout avancé le problème du prix, il a plus avancé un problème de place et de lecture.
Philippe, l'état des lieux à Rivière Blanche alors?
L'état des lieux est simple, on ne fait pas de numérique. Alors moi je pense que je m'intéresse au numérique depuis pas mal de temps parce que je pense que j'ai une théorie, comme une théorie est fausse, qu'il y a eu pour moi trois révolutions dans le livre, l'imprimerie, le livre de poche et le numérique. Je fais partie d'une génération avec mes cheveux blancs qui a eu beaucoup de 33 tours, qui a eu beaucoup de CD et qui ne les écoute plus. J'avais une belle collection de vidéos VHS, j'en ai plus. J'ai 10 000 livres papier, je pense que dans 10-15 ans, ces 10 000 livres se retrouveront là-dedans. Parce que là-dedans, je peux mettre 10 000 livres. Je suis un amoureux du livre, papier, mais j'étais aussi un amoureux du 33 tours. Donc le numérique, c'est une révolution que même si on aime le livre papier, on va être obligé à la subir, comme on a subi toutes les révolutions technologiques. Donc pour moi, le livre papier n'est peut-être pas mort, mais le livre numérique va tout changer. Et il va changer ce qu'on appelle, c'est très bien, c'est la fameuse chaîne du livre. Et là aussi, il va y avoir toute une révolution au niveau des éditeurs, il va falloir prendre en compte. Parce que, est-ce qu'on va travailler toujours avec des imprimeurs? Est-ce qu'on va travailler toujours avec des distributeurs? Est-ce qu'on va travailler toujours, je vais même aller plus loin, avec des illustrateurs? Est-ce que ça vaudra le coup, dans un livre numérique, de payer une illustration? Je vais dire un exemple qui je me colle là, la couverture de l'illustration. Est-ce que les gens qui vont avoir la couverture de l'illustration vont être intéressés? Je veux dire, voilà une, quand vous la voyez sur le livre numérique, c'est affreux. C'est pas beau.
Et quand le bouquin est vachement bien.
Voilà, c'est vrai. Voilà, non, mais je vois là, c'est ça, dire qu'il y a toute une révolution qui rentre.
C'est un bouquin de chez Brajeune, c'est ça?
Oui, oui. Ah, mais quand même.
moi, j'ai pas vu, je suis du mauvais côté.
C'est lune bleue de l'oreille.
Et quand vous la voyez, l'illustration, le livre, elle est magnifique. Donc là aussi, je veux dire, est-ce que quand quelqu'un va acheter un livre numérique, l'illustration, elle va être importante? Il y a tout, ça va changer la bulle du livre. Est-ce que dans 10 ans, vous aurez tous ces livres là? Donc il y a toute une réflexion que l'on doit se faire. À Rivière-Blanche, on ne l'a pas fait pour une raison qui est très simple, c'est qu'on est... Brajeune a dit qu'ils étaient petits, alors je ne sais pas moi ce que je pourrais dire, microscopique. Et donc, moi, on est deux personnes bénévoles, il n'y en avait pas le temps. Et je le regrette, parce que le numérique, même si Jean-Claude Uniac dit que c'est facile, il a fait une conférence tout à l'heure, il prépare, c'est facile, techniquement, il faut quand même avoir du personnel pour faire ça. Et puis après, pareil que pour les papiers, il faut vendre. Et vendre le livre numérique, ça sera peut-être différent que de vendre le livre papier. Donc ça aussi, c'est important. Je veux dire, écrire un livre, c'est facile. Vendre un livre, c'est dur.
Oui, ça se discute que c'est facile d'écrire.
C'est facile d'écrire. Alors ça, je vous promets, c'est très facile. Je n'ai pas dit d'écrire un bon livre. Je nuance. Alors, si vous voulez écrire un livre, je ne sais pas combien il en reçoit. Moi, j'en reçois 300 par an. Franchement, c'est facile.
On reçoit 50 par semaine.
Voilà. Donc c'est facile. Mais vendre un livre, c'est aussi. Et donc, c'est vrai que le numérique fait. Alors, pour nous, à Rivière-Blanche, on a pris notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on laisse aux auteurs le choix d'aller où ils veulent pour le numérique, même parfois les conseillants et tout. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un regret de ne pas mettre l'ancien livre numérique. On avait fait un peu de livres numériques en voulant scanneriser tous les anciens livres du Fleuve Noir, dont on avait les droits. Mais c'est pareil, ça demande un travail, une personne presque à plein temps qui scanne, qui relit et qui après fait un fichier numérique. Parce que quand vous lisez certains livres numériques, même d'éditeurs, parfois c'est illisible. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Donc c'est notre révolution, c'est notre façon de lire, c'est notre façon de travailler et d'écrire même.
Stéphane, tu parlais des difficultés tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, déjà, je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe, qui était tout à fait juste et en plus beaucoup plus chantant que je pourrais l'avoir. Il a tout à fait raison.
C'est Michel.
Mais c'est pas Michel, c'est vrai. C'est que faire de livres numériques, c'est pas facile parce que c'est un métier. Donc, voilà. C'est-à-dire que fabricant de livres numériques, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer, parce qu'on peut avoir l'impression qu'il suffit de faire convertir un fichier Word et puis basta cousi. Pas du tout, parce que déjà, il va falloir que votre fichier numérique soit compatible avec le plus d'appareils possible. Donc c'est bienvenu de nouveau dans le monde des PC, Mac et compagnie. Même quand c'est compatible avec 30 appareils différents, on s'aperçoit évidemment que le 31e, c'est pas possible, le paragraphe n'est pas découpé de la même façon, les tirets de dialogue sautent, etc. Donc moi j'ai une fabricante, Émilie Mathieu, qui est spécialisée dans le numérique, et j'aime autant vous dire que elle fait des bonnes journées et que voilà. La deuxième chose que je trouve très intéressante par rapport à ça, sur la qualité technique du truc, c'est premièrement de s'être aperçu que les EPUB, qui est donc le format du livre numérique, de meilleure qualité qu'on puisse trouver, ce sont ceux qui sont faits par les pirates.
C'est vrai.
Parce qu'ils ont du temps à y consacrer et que ça les amuse beaucoup. La deuxième chose, c'est que c'est pas nécessairement, disons, les établissements les plus prestigieux spécialisés dans ce domaine qui rendent les meilleurs services. Bref, ça devient assez rapidement une boîte à outils, voire quasiment un mécano, et c'est du travail. Donc, non, c'est pas du tout facile à faire. Un mauvais EPUB, c'est facile, hein, mais un bon EPUB, c'est pas facile. Et c'est vrai pour tout le reste, hein, un mauvais gâteau, c'est facile à faire. Les obstacles, les problèmes, il y en a beaucoup. Je pense que le premier, c'est un obstacle culturel ou de rapport au livre. On en a parlé un peu hier, on en a reparlé ce matin agréablement avec personne qui est dans le public. C'est-à-dire qu'il y a une sacralité du livre, de l'objet livre et de la littérature en France qui fait que, comme on se le rappelait ce matin, en France, par exemple, c'est extrêmement difficile de jeter un livre. Même il est tout pourri, les pages sont longues, vous l'avez lu 35 fois, il est tombé dans le bain. Et c'est quand même toujours difficile de le jeter. C'est pas du tout vrai dans le reste du monde. Vous savez qu'au Japon, il y a des poubelles pour les mangas. Les Japonais, ils sortent du métro, ils ont fini leur manga, ils le jettent.
Est-ce que c'est pas une question de mémoire, de se souvenir qu'à une époque, on brûlait des livres pour des raisons
Honnêtement, je crois pas. Je pense que c'est lié à un mode de diffusion, à une pratique du livre, à une présentation dans les médias qui est complètement différente et qui fait, comme malheureusement, je suis obligé de le rappeler très souvent, que le marché du livre en France est catastrophique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qu'il est largement handicapé par cette sacralité de la littérature. Donc ça fait que forcément, en plus, quand le livre est dématérialisé, voilà, déjà, il y a une résistance de plus. On a vu tous des réactions, par exemple, sur le net, disant « Alors moi, j'aime tellement les livres, qu'est-ce qui va m'arriver ?»« L'odeur du papier, etc. » Sauf que je réponds « Mais tranquillisez-vous,
il y a tu lis mes textes ?»
quelques centaines de milliards d'exemplaires disponibles sur cette planète. Donc c'est, voilà, vous pouvez encore le faire, le livre numérique ne va pas vous empêcher. Il y a un obstacle clairement qui est lié à l'achat de la liseuse, donc ça veut dire qu'il faut acheter un appareil pour lire un livre. Là aussi, on n'a pas l'habitude, hein. L'habitude des yeux et des mains, ça suffit, voire juste des yeux, voire même pas, même pour les malvoyants, c'est possible de lire. Donc, du coup, il y a aussi, ou d'écouter du texte, etc. Donc, il y a là aussi un rapport à un objet, un appareil, une technologie qui vient intervenir dans le rapport qu'on a au livre, à la lecture, qui non seulement est. Enfin, non seulement on n'a pas l'habitude, mais en plus, qui nous heurtent, qui nous gênent, et ils font tout du front. Il y a évidemment des obstacles financiers, commerciaux, de diffusion, etc. C'est-à-dire que il y a, vous pouvez trouver un livre jusqu'à dans 17 000 points de vente en France. Pour trouver un livre numérique, il y en a beaucoup moins des points de vente virtuels. Vous avez l'iBook Store d'Apple, vous avez Amazon, vous avez Fnac, et puis vous avez plein d'autres sites moins connus qui font du très bon travail, qui sont aussi des libraires online, mais il y en a beaucoup moins. Donc ça veut dire que vous n'allez pas, je sais pas, en allant acheter votre baguette le matin, passer devant une vitrine en se disant « Tiens, il a l'air sympa ce bouquin, je vais y jeter un œil. » C'est un autre rapport, donc c'est une autre visibilité, etc. Mais comme il faisait allusion, Jérôme, tout à l'heure, très judicieusement, c'est aussi une visibilité qui est inverse, et qui est inversement proportionnel à la présence, en particulier des genres que nous publions en librairie. Puisque nous sommes très peu présents en librairie, puisqu'il y a très peu de librairies, finalement, qui ont de la fantasy, de la science-fiction, etc. Or, vous allez sur l'iBook Store d'Apple, vous allez sur Amazon, là, il n'y a pas un problème de fond. Tout est disponible tout le temps. Vous trouverez toujours le tome 1 de la série. Sauf un petit dysfonctionnement électronique, etc., qui peut toujours arriver. Parce que la diffusion virtuelle, c'est comme la diffusion de course, c'est que si le bouquin n'est pas arrivé, que ce soit par un tuyau, par un câble ou par un camion, il n'est pas arrivé. Mais du coup, évidemment, c'est la chance d'ouvrages qui n'ont pas la chance d'avoir une visibilité régulière et en tout cas très, très importante ou quasi permanente en librairie traditionnelle. Et puis, il y a évidemment, il y en a sûrement d'autres qui pourraient venir à l'esprit, mais il y a évidemment la question du droit d'auteur, puisqu'il s'agit pour nous éditeurs de négocier au mieux des intérêts de l'auteur et au mieux des intérêts à nous, négocier les droits de publication numérique et donc l'exploitation de ces ouvrages. Mais il s'agit aussi de veiller, autant que faire se peut, à la protection de ce droit d'auteur, à la valorisation de l'œuvre, essayer de trouver les meilleures solutions pour ça. Et la façon de verrouiller, de crypter l'ouvrage pour ne pas pouvoir le prêter, etc., pour ne pas pouvoir le diffuser comme le dirait, je pense, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas une bonne solution. Mais donc, voilà, comment est-ce qu'on peut à la fois protéger, enfin, je préfère dire reconnaître le droit d'auteur sur un livre numérique, se demander dans quelle mesure il peut être fragilisé par le livre numérique, par sa dématérialisation, et en même temps lui donner la meilleure exploitation pour pouvoir dire à un auteur, je vais te publier en numérique, et ça va te rapporter tant, et voilà ce qu'on va faire avec, et tu ne devrais pas craindre ceci, ceci, etc. Bon. Je pense que nous avons plus de résistance culturelle et, je dirais, industrielle au livre numérique en France que dans la plupart des pays du monde et, évidemment, comparé aux anglo-saxons et en particulier aux États-Unis. Et ça explique, disons, le retard à l'allumage. C'est-à-dire que nous, on a commencé à publier du livre numérique il y a un an et demi, on a bien vu à quel point, parce qu'on a décidé de prendre la vague, on a décidé de le faire assez rapidement, mais on s'est bien rendu compte à quel point il y avait déjà un décalage gigantesque en à peine 2-3 ans avec ce qui se passait aux États-Unis en termes de marché, en termes d'évolution, en termes de pratiques de prix, d'opérations commerciales, etc., etc., ou d'initiatives comme ce qu'évoquait Jérôme et que nous faisons aussi, c'est-à-dire publier des inédits, publier des nouvelles. Je parlais de la visibilité inverse. Évidemment, la nouvelle, qui est extrêmement difficile à publier et à vendre dans les librairies traditionnelles, la nouvelle est particulièrement adaptée au livre numérique. C'est-à-dire que vous voulez pouvoir lire sur votre smartphone une histoire en un quart d'heure, parce que c'est le temps d'un trajet en bus, par exemple. Et vous le ferez avec plaisir, alors que vous ne serez jamais allé acheter une anthologie, parce que déjà, vous aurez du mal à la trouver, etc., etc. Donc, je pense que c'est, pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de déjouer ces obstacles, non, et donc déjouer et pas de les confronter, de ne pas se taper la tête dessus, qui est encore une façon, je le regrette, un peu française de faire les choses, mais de se dire comment est-ce qu'on peut le faire autrement, comment est-ce que ça peut être une chance, évidemment en mesurant les risques, en y faisant attention. À la table ronde de l'année dernière, on a sous-entendu que, puisque je vendais des livres numériques, je jetais le droit d'auteur à la rivière. Je n'ai pas répondu, hein, mais ça me paraît très français. C'est qu'à partir du moment où vous vendez, c'est globalement vous êtes un brigand. Quoi. Non, pas du tout. Si on vend, c'est parce qu'on a réussi à se mettre d'accord avec les auteurs. Et c'est comme ça, je pense, que les choses évoluent malgré des obstacles. Hein.
Moi, je pense que pour l'aspect sacré du livre, ça va aussi beaucoup changer avec les nouvelles générations. Je pense que les nouvelles générations vont avoir leurs tablettes, ne vont plus avoir de livres scolaires. Ils ne vont plus avoir les livres non plus des Molière et tout ça. Ils vont entrer directement dans le livre numérique. Ils n'auront plus déjà le livre papier. Et dans 10 ans, pour eux, le livre papier n'existera pas. Donc nous, oui, mais toutes les nouvelles générations, tous ceux qui vont arriver à 6e, où les conseillers régionaux donnent des tablettes et tout, eux n'auront plus cet aspect. Déjà, le livre scolaire ne sera plus papier. Dans quelques temps, à mon avis, il n'y aura plus de livres scolaires papier. Le livre scolaire va disparaître, les livres scolaires de français qu'ils étudient vont être aussi sur terre, et donc il y aura plus cet aspect sacré du livre qui, je pense, dans les... Alors ça va être dans 10-15 ans, le numérique arrivera.
Mais on va gagner en scolios quand même.
Mais écoutez, on en parlait justement, je veux dire que quand un éditeur, moi je porte des cartons de livres, si je dois porter un disque dur, c'est mieux. Hein. En scoliose. Quand tu portes tous tes cartons en tant qu'éditeur là, de mettre et tout ça, c'est vrai que.
Jérôme.
Oui.
Des réactions sur. Avant qu'on donne la parole au public.
Effectivement, tout ce qu'a dit Stéphane, ben, pour le coup, je suis assez d'accord. Ce qui est intéressant et en même temps assez prise de tête, c'est que ça pose un million de questions. Donc, par exemple, typiquement, dans le cadre où le livre numérique va être. En plus nombreux à arriver chaque mois, il y a des questions en fait comment surnager dans la visibilité, avoir de la visibilité, comment faire en sorte qu'une sortie d'un livre numérique ce soit un événement et qu'on puisse toucher les lecteurs. Ça pose aussi des problèmes en termes d'accès aux médias, combien de journalistes aujourd'hui acceptent de lire un livre numérique, quelle importance même ils vont mettre dans la sortie d'un livre numérique par rapport à un livre papier. On a plein de questions à régler.
Là, c'est pas la scoliose, c'est la boîte aux lettres, le problème pour les journalistes.
Non, mais c'est...
Ils perdent de l'argent.
Ouais, c'est ça. Mais non, mais globalement, aujourd'hui, il y a un journaliste sur 10 qui accepte de lire un livre numérique par rapport à un livre papier, et 1 sur 100 qui va accorder de l'importance à une sortie d'un inédit en numérique par rapport à un livre papier. Je donne des chiffres à l'emporte-pièce, hein, j'en sais rien si c'est 1 sur 25 ou 1 sur 250, mais globalement, il y a assez peu de médias qui chroniquent ou qui font écho de sortie de livres numériques. Voilà, il y a des soucis de visibilité qui vont apparaître, sachant qu'en plus, alors je vous invite aller en discuter notamment avec Ayurdal. Il y a des grandes questions sur les livres indisponibles du XXe siècle qui vont être numérisés par la BNF. Ils prévoient de mettre sur le marché entre 500 et 700 000 titres en 5 ans. Donc, faire un petit peu de monde et un petit peu de bruit. Mais allez en discuter avec le droit du cerf et Ayurdal, il vous en parlera encore mieux que moi. Voilà, simplement je reviens aussi sur l'extrême créativité des choses, puisque en discutant de la table ronde d'aujourd'hui, on a notamment parlé du livre numérique augmenté. Il y a un très bon exemple chez Nemos qui arrive, chez Kadat. Et puis il y a aussi l'expérience Veillade, avec là aussi des inédits ou des reprises, là aussi des nouvelles, et avec eux aussi une visibilité de quasiment 2 ans. Donc il y a plein de choses qui se font.
On va se tourner un peu vers vous, qui êtes présent avec nous. D'abord, combien sont des lecteurs de livres numériques dans le public? Et les autres, c'est quoi? Vous êtes réfractaires aux livres numériques? Ou c'est parce que, justement, comme le disait Stéphane, pour le moment, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir le matériel nécessaire ou,
Dans mon cas, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis une acharnée du livre. Je dois avoir des milliers de livres entre ceux de mes parents, les miens. On ne sait plus où les mettre.
Voilà. Là-dedans.
Ensuite, j'adore flâner dans les librairies, et des fois, c'est la couverture qui va m'attirer. Et là, quand vous parliez de livres augmentés, il y a quelque chose qui m'est venu, hein, c'est une suggestion. Pourquoi se contenter au niveau de l'illustrateur de la couverture dans le livre numérique? Pourquoi pas lui demander d'illustrer certains passages du livre pour lui redonner sa place dans le livre?
À noir et blanc.
Je crois que c'est ce qu'a expliqué
c'est
Stéphane.
Attention, là aussi, on rentre dans un domaine.
Voilà.
J'ai l'habitude d'être celui à la table qui fait cette réponse-là, parce que ça coûte de l'argent.
Voilà, aussi.
Et que si on veut, et je pense qu'on a raison de le vouloir, que le livre numérique soit moins cher que les livres papier, ça veut dire qu'il faut essayer de serrer ses coûts de production et de fabrication et ses coûts en termes de droits le plus possible. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à mettre d'accord l'auteur, etc., tous les ayants droit sur tu vas toucher ça, parce que, et donc c'est pas beaucoup, mais le livre en même temps, l'exemplaire il est pas cher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser de ce qui a été déjà fait pour l'édition papier, mais dans le cas d'un inédit, par exemple, c'est un cas très précis, faire de la traduction inédite en e-book, pour l'instant, c'est quasiment pas possible parce que les coûts sont tels, et les traducteurs ont raison d'être payés ce qu'ils sont payés, hein. Mais ça fait que pour vendre un bouquin à 4,99€ et s'il faut faire une traduction plein pot, même si le texte est relativement court, enfin ça va vite, hein, une nouvelle A, 80 000 signes, 100 000 signes, bon, voilà, c'est tout simplement impossible. Donc là, on a un frein financier. Donc voilà, la réponse à votre question, c'est qu'on peut faire plein de trucs, mais à ce moment-là, on se dit, oh, on va engager tous ces frais et on va vendre. Voilà. Moi, par exemple, pour Bragelonne, le livre numérique aujourd'hui est une réussite dans la mesure où on a vendu 150 000 exemplaires en 1 an et demi, avec une moyenne de vente par titre de 150 exemplaires. Ça veut dire qu'il y en a qui ont vendu un exemplaire, il y en a qui ont vendu 2500 exemplaires. Il y en a plus à un exemplaire qu'à 2500. Donc, faites le calcul, 150 exemplaires fois un prix de vente de 5€, moins la part de l'auteur, moins la part du traducteur, moins la part évidemment de la plateforme de vente. On récupère en gros 60% de la plateforme de vente, ce qu'on appelle les revenus nets. Et là-dessus, la plupart d'entre nous payons les auteurs et les traducteurs, etc. là-dessus. Payons, si on paye 25% sur le revenu net à l'auteur par exemple, si on paye 2% ou 10%, ça dépend des gens, au traducteur, ça dépend. Globalement, à l'arrivée, si on peut récupérer 1€ sur un bouquin, c'est vraiment bien. 1€ fois 150, ça paye 2 illustrations. Alors pourquoi pas? Ma deuxième réflexion par rapport à ça, ça me permet de rebondir sur la question du livre enrichi, c'est est-ce que c'est vraiment ce que les gens cherchent? C'est-à-dire, je trouve que les initiatives de livres enrichis, qui sont finalement plutôt des œuvres multimédia, c'est le cas de Kadat, hein,
voilà,
c'est le bouquin de Mnemos, c'est super, mais c'est l'équivalent du beau livre ou à la limite du pop-up qu'on aime, les livres qui se déplient, etc. C'est super chouette. Mais ce n'est pas ça qui majoritairement est recherché par des gens qui sont, comme vous, des lecteurs, des grands consommateurs de lecture, et qui se disent, bon, bah, pour partir en week-end, je vais plutôt prendre, ou en vacances, je ne vais pas partir avec 25 bouquins dans ma poche, je ne peux pas, je n'ai pas de place, je vais plutôt télécharger des livres numériques et je lirai ce que je voudrais, etc. Et je fais une petite réflexion par rapport à ça, parce que je la trouve très intéressante, c'est que, et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure façon de détourner l'angoisse de l'amoureux du livre et du consommateur de lecture par rapport aux livres numériques, c'est que les gens qui achètent le plus de livres numériques, ce sont évidemment les plus gros lecteurs. Parce qu'ils veulent pouvoir les télécharger, les obtenir rapidement, ils veulent pouvoir le faire n'importe où, parce que l'intérêt d'avoir un appareil de lecture en 3G, par exemple, c'est de pouvoir télécharger où vous soyez du moment qu'il y a du réseau. Et quand vous regardez, par exemple, aux États-Unis, qui a beaucoup d'avance sur nous, sur cette pratique, le paysage statistique des acheteurs de livres numériques, vous voyez que c'est majoritairement des femmes qui ne sont pas des intellectuels qui vivent à New York. Hein. Non, non, c'est des agricultrices, c'est des femmes qui vivent au cœur des États-Unis, dans des zones où il y a très peu de librairies. Donc, voilà, le livre numérique vient justement satisfaire des gens qui sont, comme vous, des acharnés de lecture.
Moi, j'ai un exemple qui est très simple, c'est mon épouse qui doit lire un livre par jour. Qui en a comme moi, donc on en a beaucoup, qui je lui ai offert la Kindle d'Amazon, qui a regardé ça d'un air très sceptique, et qui au bout d'un an est totalement convaincu de ça. Pourquoi ? Parce que déjà, elle lit au lit, au lit c'est très bien, qu'elle avait des gros bouquets, c'était pas possible, qu'elle veut se commander un livre, comme elle connaît les auteurs, en 10 secondes, elle a le livre le dimanche, même si elle aime bien elle flâner, mais elle l'a là. Elle peut amener en vacances dans son sac à main, elle a tous ses livres. Et elle m'a dit, c'est vrai que maintenant, au bout d'un an, et bien quand je relis un livre papier, mais c'est plus ce que c'était avant. Je suis vraiment convaincu que ça, c'est très bien. Et elle me remercie de l'offre. Et c'est grâce à elle, bon, voilà. Mais ça, c'est une autre façon de lire. Et vous parlez de tous les livres. Moi, j'ai 10 000 livres. J'ai un fils qui a 25 ans qui s'en moque. Je veux dire, qu'est-ce que je vais en faire de ces 10 000 livres un jour ?
Bah, nous les donner.
Tu les veux ? Je suis. T'as la place ?
T'as un camion ?
Tu dois les avoir à la moitié. Non mais voilà, je veux dire, voilà, c'est pareil. Donc c'est vrai que, bon, je suis un collectionneur, mais c'est vrai que là, je me suis dit, maintenant, je peux changer. Même des fois, j'enlève mes lunettes, j'agrandis le texte et je lis sans mes lunettes.
Ceci dit, le rapport au fait d'avoir une belle bibliothèque, de collectionner, etc., non seulement ne disparaît pas, mais à mon avis, en plus, est accentué par le développement du numérique. Pourquoi ? Parce que finalement, ce que le livre numérique, qui globalement n'est pas cher ou ne devrait pas être cher, va venir remplacer le plus rapidement, c'est le livre à bas prix, donc c'est le livre de poche, et c'est le livre d'occasion, etc. Ça veut dire qu'à l'autre extrême du spectre, le beau livre, l'édition rare, l'édition signée par l'auteur, l'édition avec une belle couverture, etc., etc., va retrouver une valeur, enfin trouver une valeur supplémentaire. Et je pense que l'éventail va s'étendre, s'élargir de plus en plus. Finalement, entre une lecture facile, immédiate, à bas prix, qui ne pèse rien, et la propriété ou le cadeau d'un beau livre qui a une valeur matérielle intrinsèque au-delà de son contenu. Et c'est pour ça aussi que je trouve que le livre enrichi n'est pas, est une perspective intéressante, mais ne vient pas pour l'instant remplir une fonction naturelle dans ce paysage.
C'était qu'une piste, et après je suis persuadée des bienfaits de la liseuse. Simplement, pour l'instant, mon budget a eu d'autres priorités, mais je vais sans doute m'y mettre. Et par contre, dans ce cas-là, si je me mets à la liseuse, la question est comment je fais pour me repérer. Parce que moi, mon gros souci, c'est que à moins d'acheter les livres des auteurs que j'adore, pour par exemple emmener toute ma bibliothèque de Mireille Calmel en vacances au jour où je veux me refaire tous les Mireille Calmel, je ne sais pas forcément vers quel auteur me tourner.
Vous allez sur le site ActuSF, hein ?
Exactement. Évidemment.
On part de Mireille Calmel sur le site ActuSF.
Je vous pose la question. Non, mais vous allez, voilà, c'est là. Comme je disais, c'est vendre un livre. Donc ça sera aux éditeurs à justement trouver, ou même aux libraires. Je ne sais pas, les libraires.
La question, c'est quoi ? C'est une quatrième de couverture, par exemple ?
C'est le conseil.
Conseil.
Comment je me... Parce que voilà. Finalement, je me retrouve seule devant mon écran.
Ça, c'est plus la question du libraire, finalement, que des éditeurs.
Comment vous faites pour décider d'aller au cinéma ? Vous demandez à qui ?
En général, c'est les bandes-annonces ou ce genre de choses qui va
me donner. Il n'y a pas l'équivalent d'un libraire pour vous conseiller ce qu'il faut aller voir. Alors, le libraire est toujours là et le bibliothécaire pour conseiller, orienter, faire découvrir des choses, etc. Mais ça veut dire que, là aussi, ça c'est une spécificité du livre un peu étonnante. Hein. C'est pour le cinéma, vous renseignez dans la presse, sur internet, vous lisez des avis, vous en parlez avec vos amis, etc. Et donc ça s'applique tout à fait au livre, ou plutôt, disons, au livre sans libraire. Ceci dit, l'importance des commentaires et des recommandations sur les sites de vente de livres, physiques aujourd'hui, papier, est déjà tout à fait réel. J'en profiterai, je vais sûrement encore me faire des amis, mais il y a eu un sondage il y a quelques années sur l'importance du conseil du libraire dans la décision d'acheter un livre, en disant aux gens, quand vous achetez un bouquin, quelles sont les chances pour que vous l'ayez acheté parce que le libraire vous l'a conseillé. 4%. Ce sont 4% très précieux, très importants, qui peuvent changer votre vie. Vous n'avez jamais entendu parler d'un auteur, un libraire vous met le bouquin dans les mains en disant « fais-moi confiance » et ça change votre vie, donc c'est 4% très important. Mais c'est dire à quel point, aujourd'hui, l'achat du livre, il est lié à beaucoup d'autres choses. C'est un peu pareil avec la critique, hein. J'ai coutume de dire que si les gens se fient à la critique pour acheter un livre, Da Vinci Code, il aurait vendu 80 exemplaires. Hein. Quand même, tout le monde a dit que c'était de la merde. Bon, tout le monde l'a acheté, et beaucoup de gens l'ont lu. Donc, je pense que il faut garder ce qui est précieux, ce qui est utile, mais il faut se rendre compte à quel point cette fonction de recommandation, disons professionnelle, aujourd'hui est beaucoup plus, au moins beaucoup plus diffuse, parce que le libraire qui vous conseille, c'est pas seulement quand vous l'avez en face de vous dans ce librairie, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est son blog, c'est bien d'autres moyens d'écouter ce qu'un libraire, un critique a à dire sur votre compte.
On avait une question là-bas.
Moi j'avais une question parce que quand on lit des choses sur les livres électroniques, on parle beaucoup de DRM et on parle assez peu du fait que, je ne sais pas quelle est la situation en France, parce que vu la situation des livres électroniques en France, je lis beaucoup en anglais, mais des restrictions géographiques de vente. Et je voulais avoir votre avis en tant qu'auteur, parce que si je compare un livre papier, je peux acheter un livre papier paru aux États-Unis, sur par exemple Amazon me livre. Et le même livre en électronique, j'ai un message qui me dit « Vous n'habitez pas aux États-Unis, vous n'avez donc pas le droit d'acheter ce livre. »
C'est des restrictions états-uniennes, quoi.
Alors, une question sur le là-dessus, il y a les mêmes restrictions sur le livre papier.
J'ai jamais eu ce problème-là sur
les papiers. Je l'ai tous les jours en commande.
Ah bon ? Moi, si je commande sur Amazon.com...
Sur Amazon triche. Mais par exemple, le groupe Hachette interdit à tous ses livres publiés en Angleterre qui sont traduits en France, d'être diffusés en France en anglais.
Alors, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans des questions.
Juste un petit détail, DRM.
DRM, c'est un verrouillage électronique d'un fichier
qui sert à
rien, mais qui est censé vous empêcher de le diffuser par vous-même. C'est-à-dire que il y a un seul exemplaire que vous avez acheté, il est incessible, intraitable, etc. Alors, beaucoup de choses par rapport à ça. La première, c'est qu'il y a une question de droit. C'est-à-dire que quand on acquiert les droits de publier en français un livre étranger, ce droit est limité à une langue et ou un territoire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais acquérir les droits de traduction en français et je vais avoir le droit de vendre ce livre papier, rose French-speaking countries, par exemple, ou disons l'ensemble des pays où la langue française est la langue principale et qui souvent sont même listés, c'est-à-dire ça va être France, Suisse, Belgique, Canada francophone, par exemple. Ou alors ça va être the world, l'ensemble du monde, mais seulement en langue française, par exemple. Donc il peut y avoir des distinctions. Et donc en fait, ces distinctions s'appliquent également au livre électronique. Ce qui ce qui suscite des conversations intéressantes, par exemple, j'ai pu dire à un agent, c'est quand même dommage que, parce que ça va dans l'autre sens aussi, hein, qu'un Anglais qui apprend le français ne puisse pas lire la traduction d'un roman de Laurel Hamilton en français. Ça pourrait l'intéresser de voir qu'on sait traduire en français comme nous, on va lire des livres en anglais pour comparer la traduction, pour se familiariser avec la langue. Elle va dire, oui, j'y avais pas pensé. Mais ça, j'y avais pas pensé, je pense que c'est la phrase qui résume le livre numérique depuis 2 ans. Hein. C'est que tous les jours, on a une idée, tous les jours, on dit, mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Ah, je sais pas, techniquement, légalement, etc. La deuxième chose, c'est que quand vous mettez, quand vous diffusez un livre numérique sur des plateformes Amazon, Apple, etc., vous cochez des cases qui sont celles des territoires où le livre pourra être téléchargé. Et si vous cochez seulement France, et ben en effet, et que vous êtes en Espagne, on peut vous dire « Ah, désolé, vous êtes en Espagne, voilà, vous ne pouvez pas l'avoir. » Donc vous pouvez cacher, vous pouvez cocher les autres cas, à certaines conditions, etc. Ce à quoi tu fais allusion, c'est notamment la protection du marché britannique par rapport à l'importation possible des ouvrages américains. C'est-à-dire que, évidemment, les Anglais et les Américains sont concurrents, parce que c'est la même langue, donc les éditeurs britanniques veulent pouvoir protéger leur marché, et s'ils décident de publier un ouvrage en Grande-Bretagne qui a déjà été publié aux États-Unis, ils veulent pouvoir vendre leur édition et ne pas être en concurrence, ne pas subir la concurrence des Américains. Évidemment, ce que font les Américains, et donc les libraires britanniques, c'est que les Américains exportent vers l'Europe, et grâce aux dispositions de la communauté européenne, les libraires britanniques commandent les ouvrages américains d'Europe et peuvent les vendre. C'est très compliqué, voilà, y a des sessions au syndicat national de l'édition qui n'en finissent pas sur la question. Donc c'est ça aussi qui parfois rentre en ligne de compte. Je pense que, là aussi je suis très optimiste, c'est que je pense qu'au sortir d'une période de balbutiement, de tâtonnement, de questions, de quelque chose qui est très de bricolage, on finit par élaborer un paysage où on peut se mettre d'accord, on peut se dire, bah, finalement, on pourrait essayer tout ça, peut-être qu'on se posait des fausses questions, peut-être que vraiment on s'emmerdait pour pas grand-chose. Et c'est en train d'évoluer. Nous, on a des projets de livres numériques bilingues, par exemple, de coédition avec des éditeurs étrangers, en disant, bah, vous avez le texte original, on a la trad, ou l'inverse, hein, Pierre Pebel, il est français, il est traduit en anglais, on peut faire quelque chose ensemble. Ça prend beaucoup de temps, et encore une fois, je pense que ça ne sera jamais une partie importante du marché, comme le livre bilingue papier, mais ça évolue. Maintenant, la question du DRM, alors ça c'est simple, ça ne sert à rien, ça fait chier tout le monde, ça ne sert qu'aux avocats des grands groupes mondiaux à justifier leurs honoraires, et même ces grands groupes mondiaux, des gens comme Hachette, vous avez parfois des interlocuteurs qui disent « Écoute, je suis complètement d'accord avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai pas le droit parce que c'est une disposition de groupe. » C'est le group policy, tout le monde fait ça dans le groupe, il n'y a pas de passe-droit. Mais vous avez aussi une grande majorité d'ayants droit, en particulier anglo-saxons, qui disent « Oui, bien sûr, la question ne se pose même pas, les DRM, ça sert absolument à rien et ça gêne l'utilisateur. » Donc ça évolue quand même très très vite, cette question.
D'autres questions ?
Il y a un problème sur le livre électronique qu'on a vu sur d'autres supports électroniques, c'est la conservation et l'utilisation à long terme. Qu'est-ce qui garantit à un acheteur d'un livre électronique que dans 15 ans, il va pouvoir le lire ?
Alors, premièrement, ça passe par un SAV. Et nous, on en a un. C'est-à-dire que vous pouvez dire, j'ai un problème, ça bug, je l'ai perdu, etc. Et on dit, bah, très bien, on vous l'envoie. Et ça, c'est une disposition commerciale. Deuxièmement, techniquement, ce qui relève de la technologie, ça évolue beaucoup, etc. Mais je pense que là aussi, à nous de faire des mises à jour, c'est comme les logiciels, à nous de faire des mises à jour pour pouvoir dire si jamais ça ne marche plus, ou si vous achetez une autre liseuse et que ça ne passe pas sur celui-là, mais au moins on se penchera sur le problème pour vous faire. Bon. Alors du coup, c'est du service personnalisé. Quand on vend 150 000 bouquins en un an et demi, c'est encore jouable. Le jour où on en vend 100 000 par jour, rêvons, là ça va être un peu difficile de faire du SAV personnalisé. Ceci dit, si on en vend 100 000 par jour, on va gagner des sous pour embaucher des gens pour le faire.
Je tâche même pour le principe aussi que les magnétoscopes. Je veux dire, aujourd'hui, si votre magnétoscope tombe en panne, qu'est-ce que vous faites de vos cassettes ? Vous en achetez un autre ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ça, c'est l'évolution technologique ou les voitures. Je veux dire, vous avez des voitures qui marchent super, mais il n'y a plus de super.
Mais c'est sûr que c'est un problème qui ne se posait pas sur le livre.
Voilà, il n'y a plus de super, mais on évolue.
Oui, moi j'habite en Angleterre et donc je suis un assez grand consommateur de livres électroniques, parce que évidemment c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas trop de librairies. De livres français, évidemment. Et moi j'ai une question plutôt sur le prix du livre électronique. Alors je ne connais pas trop le monde de l'édition, évidemment. Mais pour moi, c'est très facile de comparer le prix d'un livre anglais, et je prends l'équivalent en français, bon, avec la traduction, d'accord, il y a forcément la traduction, mais il y a un rapport parfois de 1 à 6. Et donc, j'arrive à me dire, et j'ai vu des articles aussi sur le net,
qui disent que le fait que le prix le livre électronique soit aussi cher, ça provoque aussi plein de gens qui vont aller vers le piratage. Parce que si j'ai un livre qui va coûter 18 euros, et que. Moi, quand je vois, j'ai un livre en français qui peut me coûter 18 euros, et à côté, je peux acheter 6 livres.
À 18 euros.
Oui, il y en a.
Autant l'acheter en papier.
Mais oui, mais c'est ça.
Non,
c'est ça.
Non, non, c'est plus facile parce que tu l'as dans 10 secondes.
C'est ça. Et à côté, je vois si je peux m'acheter 5 livres à 4 livres. Bon, ils sont en anglais, mais ça, moi, ça va parce que je lis en anglais. J'aimerais bien lire en français quand même. Et je ne comprends pas cette différence de prix. Je ne vois pas le truc.
Alors, juste deux choses. D'abord, on a une grande chance. Enfin, je trouve que nous avons une grande chance sur les histoires de prix, c'est que les grands groupes sont plutôt à la ramasse. Donc, on a tendance à mettre des livres plutôt chers. Et il y a certains groupes qui. Alors, pour des raisons différentes, mais globalement, moi j'ai discuté avec des grands groupes qui disent globalement, nous on essaye de mettre le plus cher possible pour ne pas trop concurrencer les libraires. Alors, ce qui est. Arrive à certaines aberrations, on a parfois parce qu'on a fait une petite étude il y a pas longtemps, vous prenez un bouquin pocket en poche et le numérique est 140% plus cher que le livre papier. Mais moi je trouve ça super, parce que du coup nous ça nous laisse de la marge. Donc au contraire, qu'il continue, surtout qu'il continue. Sur le piratage, j'ai un exemple qui était assez rigolo, c'est que on a trouvé, c'est Roland Wagner qui m'a envoyé un mail en disant un jour, tiens t'as vu il y a sur un forum un mec qui a dit voilà, je viens d'acheter celui qui va avec une goutte et je suis en train justement de le pirater, donnez-moi des conseils. Donc il y a eu toute une discussion sur le forum, tout ça, c'était assez drôle. Donc partant de là, il y avait que deux positions possibles. Soit on venait jouer les censeurs en disant c'est pas cool parce que tu spolies le pauvre petit éditeur et le pauvre auteur, etc. Alors du coup, on n'a pas joué ça du tout, c'est-à-dire qu'on s'est inscrit, et puis le jour où le livre était dispo en numérique, on a fait « Coucou, c'est cool, bravo, ça nous a bien amusé », mais en fait, du coup, il est à 2 euros. Alors, vous pouvez vous embêter, mais il est à 2 euros. Et on a eu un dialogue qui était vachement intéressant, parce que eux nous disaient « nous, on est plutôt des pirates du livre, mais ça fait plaisir de voir des éditeurs qui font du livre numérique pas cher, quoi ». Dû récupérer quelques commandes comme ça, et puis nous, on ne se les a pas mis à dos, c'est des lecteurs qui sont finalement des lecteurs potentiels. Donc si on veut lutter contre le piratage, c'est sûr que c'est pas avec les DA. Enfin, on a une industrie musicale qui s'est quand même bien plantée. Si on est intelligent, on va peut-être essayer de ne pas faire la même chose.
On a fait très exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a contacté les sites de pirates en disant ça y est, on a une offre numérique légale, et la réponse a été la même. Enfin, 50% de ces sites ont retiré les titres. De leur site, et en plus nous on se dit « Ah putain, c'est vous, Brajlon, c'est vous, Milady, génial, on adore ce que vous faites, etc. » Donc non seulement, c'est plus que des lecteurs potentiels, c'est en fait c'est déjà des fans, parce que sinon ils n'auraient pas acheté le bouquin de Roland. Donc en effet, il faut pas les attaquer de front. La question du prix, elle est là encore liée à ce qu'on a le droit de faire. Je suis éditeur, c'est mon métier, donc ça va avec. C'est qu'il y a des ayants droit qui nous interdisent, qui limitent la baisse de prix qu'on peut effectuer sur un livre numérique par rapport au livre papier, en effet, pour soit, disent-ils, ne pas dévaloriser trop l'œuvre de l'auteur, soit protéger les ventes du livre papier. Donc c'est un combat de tous les jours. Je vais dire tout à l'heure, parce que les invités du festival, c'est Mary Jane Davidson, que je publie chez Milady, je vais lui expliquer pourquoi elle n'est pas publiée en numérique en France, parce que son agent le refuse. Voilà. Et là, je pense que les bras vont lui en tomber, et va dire... Mais quel agent aujourd'hui peut refuser un agent américain peut refuser je vais t'expliquer pourquoi. Donc oui, la politique de prix est très très importante. Elle est alors comparer les prix français et anglais sur le livre papier, c'est une autre question. C'est lié à l'importance du marché, c'est lié à la production, c'est lié à des pratiques, c'est lié aussi au prix, au problème de la loi sur le prix unique du livre en France, c'est-à-dire que les Anglais ne l'ont pas. Donc les Anglais sont obligés de faire avec des libraires et des distributeurs, diffuseurs, etc., qui peuvent discounter le livre d'une façon,
sauvage.
Sauvage, qu'il est contraint. C'est-à-dire qu'un éditeur anglais peut dire, voilà, je mets mon bouquin à 14 livres, et Amazon va dire, moi, je le mets en vente, très bien, mais moi, je vais le vendre 7 livres. Et si l'éditeur dit non, ça ne marche pas, Amazon dit je te le garde. Et moi, je suis majoritaire sur le marché, tu ne peux pas te passer. Pareil avec Tesco, qui est une grande ligne, hypermarché. C'est intéressant, je crois qu'il y a un Harry Potter, je ne sais plus lequel, sur lequel personne n'a gagné d'argent en Angleterre. Parce qu'il a été tellement discounté que, bah, finalement, voilà. Alors que Harry Potter, vous pouvez le vendre trois fois plus cher, les gens le rachetaient. Et du coup, avec des trucs marrants, c'est qu'il y a des libraires indépendants anglais qui allaient acheter des exemplaires d'Harry Potter chez Tesco, hein, et qui les ramenaient chez eux et qui les revendaient, parce que du coup, ils faisaient plus de profit que s'ils le commandaient directement auprès de l'éditeur. Mais ça, c'est le problème du... Enfin, c'est le problème. C'est le problème de l'absence d'encadrement sur le prix du livre. Le prix... Enfin, la loi sur le prix du livre en France pose d'autres problèmes. Mais pour l'instant, et d'ailleurs, c'est intéressant à savoir aussi, sur le livre numérique, il y a une extension de la loi sur le prix unique du livre qui est tout simplement le fait que l'éditeur choisit son prix, et c'est le même prix pour toutes les plateformes de vente. Et ça, c'est hyper important parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Ceci dit, faire l'avocat du diable, c'est ça aussi qui permet de développer un marché beaucoup plus vite que le nôtre. Parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de décider avec, par exemple, Apple, de faire une opération commerciale avec un prix plus bas pendant une semaine, mais je suis obligé de le faire avec Amazon. Et donc Apple va pouvoir me dire, bah, alors quel est mon intérêt, moi, comment est-ce que j'attire une clientèle supplémentaire? Je n'ai pas le droit de le faire. Donc voilà, le prix numérique du livre est d'une importance crucial pour développer le marché, mais a affaire à tout un ensemble de paramètres. Je suis évidemment complètement d'accord avec ce qu'a dit Jérôme, avec une nuance près, c'est que très bien qu'il continue, oui, mais on est toujours dans un dilemme, c'est que d'un autre côté, on est content d'être privilégié, nous, grâce au choix qu'on a fait commercialement. D'un autre côté, si on veut vraiment que ce marché se développe, bah, on ne va pas le faire tout seul. Et donc, évidemment, on a besoin de tous les autres acteurs pour que la masse de l'offre est aussi une clé. C'est-à-dire que les Américains m'ont dit tout de suite, on ne vend pas du livre numérique quand on offre 50 bouquins. On vend du livre numérique quand il y en a 3000, 5000. C'est une évidence sur l'ensemble du marché. Donc il faut que tout le monde en fasse beaucoup et numérise rapidement et propose des inédits, etc. etc. Donc pour ça, évidemment, on a besoin d'être tous ensemble. Et Philippe le sait, on va continuer à en parler. C'est aussi pour ça que nous, chez Bragelonne, on propose de la diffusion numérique. C'est-à-dire qu'on a créé une structure qui s'appelle Identes, qui propose d'être diffuseur d'autres éditeurs et qui leur dit vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas les moyens de vous diffuser en numérique. Nous, on a fait tout ce boulot-là. On vous prend dans notre cas, enfin, on vous propose d'avoir votre catalogue en diffusion. Ce n'est pas Bragelonne, hein, c'est Griffe d'encre, c'est Rivière Blanche, etc. De façon à favoriser les éditeurs indépendants dans le développement de leur.
Moi, j'aurais une question, puisque Bragelonne, il paraît qu'il y a quelques années, il n'était que dans la traduction et peu dans la mise en place de nouveaux auteurs. Est-ce que grâce au livre numérique, on aura plus de place pour les nouveaux auteurs?
En fait, c'est une question qui dépasse largement Bragelonne, qui est, encore une fois, l'initiative, pour l'instant, quasi exclusivement américaine, de l'autopublication sur Internet, encadrée. C'est-à-dire, et quelques exemples, hein, le mois prochain, je publie en français une auteure qui s'appelle Amanda Hawking, qui a écrit un roman de romance vampirique pour les ados qui s'appelle De mon sang. Amanda Hawking, elle a mis son texte directement, elle s'est autopubliée sur Amazon à 0,99 et elle a vendu 1 million d'exemplaires. Ce qui est très intéressant à savoir là-dessus, c'est qu'elle a vendu 1 million d'exemplaires parce que les gens ont adoré son bouquin, mais aussi parce qu'elle a super bossé avec tous les blogs. C'est-à-dire qu'elle s'est fait connaître dans la blogosphère, etc. Donc elle a elle-même emporté le morceau avec un système de recommandation qui en plus disait c'est vachement bien et ça va vous coûter 99 centimes ou 99 cents, c'est rien du tout, vous n'hésiterez pas. Et donc l'autopublication est évidemment une façon d'avoir accès, ou en tout cas à l'auteur, de mettre son texte à disposition d'un public qui est virtuellement gigantesque, hein, parce que c'est Internet, mais qui en même temps est. Philippe y a fait allusion tout à l'heure, c'était très juste. Vendre un livre numérique, c'est une sacrée affaire. C'est aussi le débat qu'on a souvent avec les auteurs qui disent je peux faire mon e-pub moi-même dans ma cuisine et le mettre sur Internet. Ouais, super. Et alors? C'est-à-dire que tu peux aussi imprimer ton bouquin toi-même sur une boutique de photocopieuse et le poser dans une librairie. Et à ce moment-là, il faut des commerciaux, il faut de la pub, il faut de la promo, il faut de la mise en avant, il faut un cadre de cours, il faut. Toutes les opérations commerciales qu'un éditeur a pour mission de mettre à disposition de l'auteur pour servir son livre. Donc, l'autopublication sur du livre numérique, elle a affaire à tous ces problèmes.
C'était pas ma question, l'autopublication.
Oui, oui, j'ai compris, mais c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus important que ce que Bragelonne fait ou va faire dans ce domaine. La réponse est que oui, bien sûr, c'est qu'à Épinal, ici, l'année dernière, j'ai signé les premiers contrats avec des auteurs en disant « je trouve que votre texte est vachement bien », comme Jérôme le disait tout à l'heure, mais par exemple, c'est une novella qui fait 120 pages, même si je trouve que ce bouquin est un chef-d'œuvre, je peux pas le sortir, je vais le mettre à 3 euros, personne ne va le voir, enfin, c'est impossible. Par contre, je peux le faire en format numérique, mais j'ai un exemple très précis, Cécile Duquette, jeune auteur absolument admirable. Cécile a une série qui commence avec un bouquin qui s'appelle « Quadruple assassinat dans la rue de la mort », et l'édition papier de ce texte est publiée par les éditions Voyelles, et moi, je vais publier la version numérique. Donc j'ai les droits du numérique, je lui ai laissé les droits papier en lui disant « moi je ne le ferai pas, un autre éditeur peut le faire ». Par contre, quand on aurait écrit 3 dans la série, moi je veux les droits omnibus, moi je peux publier la version avec les 3 textes. Donc on peut tout à fait trouver plein de dispositions comme ça, de façon, en effet, à pouvoir dire à un auteur « aujourd'hui, moi ou n'importe qui d'autre, mais l'éditeur va dire « c'est vachement bien, mais je ne peux pas faire ton bouquin pour 1000 raisons, par contre, on peut le faire en numérique et voir ce que ça donne ». Donc, sans aller nécessairement jusqu'aux 99 centimes, en effet, mais je crois, j'insiste là-dessus, tout comme l'édition à compte d'auteur ou à compte à demi et toutes ces conneries qui sont des arnaques, il faut quand même que les auteurs n'oublient pas que l'éditeur, c'est pas une imprimante, et que quand il s'engage pour un ouvrage, il engage le travail de 3, 4, 50 personnes chez lui, et que donc il y met les moyens, et qu'il met des moyens pour que le livre soit visible, soit disponible dans le plus de points de vente possible, et se vende le mieux possible. Et donc ça, c'est quand même très différent de ce qu'on peut faire soi-même en se mettant, en s'autopubliant sur Internet. Pour prendre.
Moi, je ne crois pas qu'un éditeur publie du numérique pour publier du numérique. Je pense que s'il publie un livre, que ce soit papier ou numérique, c'est parce qu'il croit dans ce livre, qu'il a travaillé avec l'auteur et tout. Je ne pense pas que le numérique fasse exploser les ventes nombre de publications chez un éditeur. Je veux dire qu'on publie un livre, que ce soit papier ou numérique, c'est parce qu'on l'a aimé, parce qu'on y croit, parce qu'on veut que...
Mais en fait, il faut pas croire qu'il n'y a pas de travail.
Faut pas croire parce que
sur un livre numérique et une sortie numérique comme une sortie papier, ça s'accompagne.
Ça s'accompagne, voilà.
Si c'est juste pour mettre le fichier et surtout pas en parler, c'est un peu dommage.
Et bien, même avant ça, je précise aussi ça parce que c'était hyper intéressant. C'est ça le débat tout de suite que j'ai eu avec les auteurs. Allez, il y a un an que j'ai approché en disant j'aime bien ton texte, je ne peux pas le faire en papier, je te propose de le faire seulement en numérique. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'ils m'ont dit mais en gros, tu me dis que c'est assez bon pour le numérique, mais pas assez bon pour le papier. Et c'était très juste. Et alors, il y a des contraintes de taille, etc., de longueur de texte, de format, si vous voulez. Mais ultimement, la question, c'était vous voulez pas me le faire travailler pour qu'il soit assez bon dans un an pour être publié en papier? Ou est-ce que, finalement, vous pensez pas que ça en vaille le coup? Auquel cas, même le numérique, ça vaut pas le coup. Donc, la valeur, la qualité, la dignité du texte, que ce soit, la question du numérique vient agiter ces questions-là. Et avant même qu'il y ait, en effet, la question de la mise en vente, etc., ou de la production papier ou numérique, il y a la question du travail de l'éditeur. Et je me suis dit à ce moment-là, il serait faux, je vais citer Marion Mazori qui disait ça à Nantes il y a un an ou deux, c'était très juste, elle disait, le temps humain, ça coûte beaucoup plus cher que le papier. C'est-à-dire que me dire, ce bouquin est sympa, mais ça ne vaudrait pas le coup de le publier en papier, trop compliqué, tirage trop important, tout ça, trop cher, mais je peux travailler avec l'auteur, et ensuite on va le publier en numérique à 1 euro. Oui, sauf que le temps que je vais passer dessus, en fait, j'ai une direction financière qui va me dire, Stéphane, c'est pas possible, ça nous a coûté. Le temps que tu as passé là-dessus, ça nous a coûté beaucoup trop cher. Et pendant ce temps-là, tu aurais dû faire autre chose. Donc c'est pas une réflexion littéraire, c'est une question de paramétrage du travail éditorial et de l'investissement éditorial.
Le numérique ne rend pas un auteur rentable.
Il y a des exemples. Il y a l'exception qui confirme la règle.
Ça dépend du nombre de ventes.
Oui.
Aujourd'hui, étant donné le marché qu'on a, non.
Mais vous n'êtes pas des philanthropes. Pas complètement. Un petit peu.
Non.
Non, on n'est pas des philanthropes, mais nous faisons, comme nous sommes dans une industrie culturelle, nous faisons et artistique, nous faisons des choix qui ne sont pas nécessairement liés au profit ou à la rentabilité. Mais en effet, rentabiliser un auteur avec le numérique, si, je pense que ce n'est pas impossible, mais encore une fois, ça dépend de tout ça. C'est-à-dire que si le texte est nickel, si on n'a rien à investir dessus, s'il s'agit juste de corriger et de faire un EPUB, et qu'on en vend 800 en numérique, si, je pense que c'est tout à fait possible.
Mais encore, c'est là, peut-être qu'on est un peu tôt dans l'histoire.
Évidemment, on est très très tôt dans l'histoire. Mais aussi, il y a une autre question, c'est que l'auteur, là on parle du travail de l'éditeur parce qu'on est l'éditeur à la table, mais l'auteur pourrait dire, vous êtes gentil, vous liez la rentabilité du numérique au fait que vous n'avez pas eu beaucoup à investir d'argent et de temps dedans. Mais vous êtes gentil, moi j'ai peut-être passé 10 ans dessus. Et à ce moment-là, la rentabilité de dire, bah, écoutez, on est vachement content, on a vendu 1000 exemplaires à 1,99€.
C'est une question qui commence à arriver, hein, notamment pour des auteurs qui ont 10, 15, 20, ou tout du moins toute une carrière littéraire. On a des discussions avec des gens qui disent, ok pour ce texte-là, mais moi je dois gérer, entre guillemets, mes 15, 20, 30 romans. Donc je me pose des questions sur comment je fais en numérique, ce que je fais tout seul, ce que je passe par un éditeur, ce que je passe par vous, est-ce que je passe par d'autres, etc. Donc, voilà, il y a une gestion et les auteurs, c'est normal, ils en attendent aussi des choses, quoi.
Ouais, l'édition numérique, c'est aussi les auteurs qui vont avoir beaucoup à travailler, à réfléchir dessus.
Bah écoute, on va s'arrêter là, mais par contre, j'imagine que c'est un sujet qui va revenir régulièrement. Un peu. On verra comment ça va évoluer tout ça. Bien sûr, si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets à approfondir, bah, je vous invite évidemment à retrouver nos invités tout au long de ces imaginales jusqu'à dimanche sur la bulle du livre, au bar. Je me disais tout à l'heure en écoutant Stéphane, voilà, que peut-être, ou en écoutant Philippe, que peut-être l'évolution de la bulle du livre, ce sera que le bar va prendre la place de la librairie en taille et.
Ah, ça, et plus de bar.
Ça, voilà, ça va finir comme ça. Oui, hein.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous en tout cas et merci de votre participation.